va se parler par ça.
Voilà, alors vous avez tous pu entendre un petit peu de musique. Alors là, on va un petit peu parler puisqu'on va faire les informations. Donc c'est un petit peu moins sympathique et moins groove que la musique, mais c'est important aussi de discuter de sujets importants que nous allons aborder dans cette émission qui est à 19h, c'est-à-dire c'est l'heure des Canu Info, c'est la plage d'information de la plus rebelle des radios, tous les jours de la semaine. Alors c'est un Canu Info un peu spécial puisqu'on a eu quelqu'un qui s'est incrusté dans l'émission, qui fait une autre émission de Canu qui s'appelle Bivouac, c'est le jeudi à 20h, et qui va nous parler un peu d'Afrique, si j'ai bien tout compris.
Voilà, entre autres, et on peut préciser qu'on est donc en direct depuis la place Mazagran, dans le 7e à Lyon Beach, et que le programme tout de suite après, chaussez vos meilleures baskets, c'est Boulimix, suivi par Arter, qui fait un concert de rap. Ensuite, il y a Radio Falafel, suivi par SAV, le concert de Pizza OD. Ensuite, il y a le mix de DJ Latache, pour finir avec le mix Furtif. Donc, il faut absolument venir dans cette fameuse place Mazagran, quand même.
Donc, on va commencer ce Canu Info par Delphine.
Alors, pour vous présenter au début un petit peu ce Canu Info Bivouac, hein, cette émission mix que nous vous proposons aujourd'hui, je me suis dit, ben, c'est bientôt les vacances, c'est l'été, donc qu'est-ce qui se passe dans les pays où d'habituellement il y a du tourisme, dans des pays en particulier dont on a beaucoup parlé cette année. Alors je vais commencer avec la Grèce. C'est vrai que la Grèce connaît un plan d'austérité extrêmement douloureux, hein, il y a des manifestations qui continuent toutes les semaines à exister en Grèce. Il faut dire que le tourisme, c'est quand même le deuxième secteur économique du pays, autant dire une bouée, hein, une bouffée d'oxygène pour le pays. Le taux de chômage, je le rappelle, atteint 21% en Grèce, donc c'est extrêmement important que le tourisme puisse exister. Et alors, les professionnels du secteur, eux, ils se sont un peu inquiétés de l'image de la Grèce qui pouvait être donnée, en particulier dans les médias étrangers, puisque c'est vrai qu'on a pu voir porter, en particulier par les télévisions européennes, les affrontements entre policiers, manifestants. Et c'est vrai qu'Athènes, sous les lacrymos, ben, c'est pas très porteur, hein, il faut quand même le dire. Les tours opérateurs européens aiment pas beaucoup. Alors aujourd'hui, une grande majorité d'hôteliers, de campings, de chambres d'hôtes ont été contraints de baisser leurs prix en Grèce. Ils vont même jusqu'à offrir des services supplémentaires pour faire venir le touriste. Et puis à côté, vous avez la Banque de Grèce qui, elle, s'est mise à vendre son patrimoine hôtelier. Donc, par exemple, là, elle a mis en vente un complexe de luxe, un complexe qui s'appelle Astir Palace. C'est un domaine de 307 hectares, donc c'est quand même immense. C'était un domaine qui était beaucoup prisé par les stars internationales. Donc, elle met en vente ce premier palace, mais très certainement qu'elle va se mettre en vente d'autres propriétés, qu'elle va donc privatiser, bien évidemment. Et donc, c'est pour éviter de mettre un peu de la trésorerie, hein, pour compenser les dettes de l'Espagne. Il y a même une vingtaine de groupes industriels, hein, en Grèce, qui ont financé des pages de publicité dans les journaux européens, avec un slogan « Donner sa chance à la Grèce ». Donc c'était pour essayer de tenter de montrer que tout va bien en Grèce, il ne faut pas s'inquiéter. C'est un petit peu le discours qu'on va retrouver au niveau de l'Office du tourisme, par exemple. Alors la grande question maintenant, c'est comment va réagir l'État. Il faut savoir que le gouvernement grec a fait appel à un groupe de travail de la Commission européenne pour intervenir sur la question du tourisme particulièrement. Alors ça commence un peu à inquiéter quand même les gens sur place, c'est-à-dire est-ce que le tourisme va être traité de la même manière que les autres sujets en Grèce, c'est-à-dire est-ce qu'on va être sur du tourisme de masse avec des constructions de partout, du bétonnage de partout. D'autant plus que la Grèce, elle a beaucoup de concurrents. Hein. Elle a l'Espagne, elle a la Tunisie, la Croatie, bien évidemment. Alors moi, je vais vous parler un petit peu de l'Espagne et de la Tunisie. C'est aussi des pays dont on a beaucoup parlé cette année. Alors l'Espagne, elle aussi, elle connaît un plan de rigueur assez important. Et c'est vrai qu'il y a encore eu des manifestations. Il y en a eu une grosse manifestation syndicale et de travailleurs mercredi de la semaine dernière. Ils étaient dans la rue, évidemment, contre la politique d'austérité, mais aussi contre le coûteux sauvetage des banques. Et puis pour la défense, par contre, pour la défense des services publics. Mais il faut savoir qu'à côté de ça, les autorités régionales, elles cherchent un petit peu toutes les solutions pour sortir d'une crise. On vous rappelle que c'est une crise immobilière qui est en train de secouer l'Espagne. Et alors, elles attendent toutes beaucoup d'un homme, d'un milliardaire. Il a 78 ans, c'est la 16e fortune mondiale. Il s'appelle Sheldon Adelson. Lui, il veut exporter les recettes qui ont fait sa fortune aux États-Unis, entre autres. Il veut installer en Espagne un énorme complexe de loisirs et de casinos. Ça s'appellerait Eurovegas. En tout cas, c'est comme ça que pour l'instant, il est appelé dans la presse. C'est quand même un truc qui aurait 36 000 chambres. Imaginez-vous un peu de 36 000 chambres.
En toute simplicité, alors.
Ah, c'est énorme, énorme. Alors, il y a deux villes qui sont sur les rangs, c'est Madrid et Barcelone. Bon, il faut dire qu'avec à peu près 20-25% de chômage, les deux villes, elles, évidemment, elles sont en train de multiplier les opérations de séduction à l'égard du méga investisseur, du milliardaire. Alors, juste pour vous dire, Las Vegas Sands, c'est le nom de la compagnie du groupe de Sheldon Adelson. Il est basé au Nevada, il est déjà à Las Vegas, à Macao, à Singapour, avec des réussites plus ou moins moyennes et en tout cas plus ou moins appréciées au niveau local. Certes, il fait des sous, ça, on ne va pas lui le reprocher, mais par contre, c'est la manière dont il crée ses sous qui pose un petit peu souci, puisque en l'échange d'une promesse de création de 160 000 emplois directs et 95 000 indirects, M. Adelson a demandé la modification de 30 lois étatiques ou communautaires, c'est-à-dire communautaires au niveau européen ou étatiques au niveau de l'Espagne. Donc, par exemple, il voudrait changer le statut des travailleurs parce qu'il trouve qu'il y a une certaine rigidité, je cite, dans les conventions collectives. Il voudrait aussi réviser les lois sur le droit des étrangers au niveau du travail, parce qu'il aimerait que ça soit tellement plus facile d'avoir des étrangers. Mais il aimerait aussi des exonérations, évidemment, sur les cotisations, sur les taxes en interne. Il aimerait que tout ça puisse lui être accordé. Une suppression pendant 2 ans direct et puis ensuite une baisse pendant les 10 prochaines années. Donc il voit loin, mais il aimerait aussi qu'on mette à bas les dernières lois espagnoles sur le blanchiment d'argent, excusez-moi, qui en plus touche évidemment les casinos que M. Adelson adore. Il aimerait donc pouvoir casser toutes ces lois qui ont été mises en place. Il aimerait aussi que l'État espagnol se porte garant, parce qu'il aimerait emprunter 25 milliards d'euros. Hein, c'est pas une petite somme pour un pays quand même qui est en crise. Alors certes, c'est le groupe qui aimerait les avoir, mais c'est bien l'État espagnol qui va se porter garant. Et puis il aimerait surtout que l'État prenne en charge une partie des coûts de la formation des employés, la construction d'une station de métro qui va directement au complexe, une nouvelle sortie d'autoroute, un héliport. Enfin, M. Adelson voit très très loin, il fait des grandes promesses. Alors il faut savoir que heureusement, il y a un certain nombre de plateformes citoyennes qui se sont créées pour s'opposer à ce projet gigantesque. Ça s'appelle Eurovegas à Madrid et Aturem Eurovegas à Barcelone. Donc eux, l'objectif, c'est évidemment de faire connaître tout ce qui se passe autour de ce projet, d'avoir une information transparente, puisque c'est un peu ce qu'ils reprochent actuellement, c'est que les régions restent très discrètes sur leur rapprochement avec M. Adelson. Et puis, évidemment, ils analysent les créations d'emplois promises. Hein, ils ont beaucoup critiqué la question, mais aussi le montage financier, puisque le groupe a annoncé des investissements en milliards d'euros quand même. Alors pour l'instant, il n'y a qu'une partie qui est financée, mais pas le reste. C'est-à-dire que la deuxième partie du projet, voire la troisième partie du projet, ne pourront se financer qu'avec les bénéfices de ce qui va exister dans les prochaines années. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout sûr qu'il y ait une pérennisation du projet.
Ça a l'air d'être un projet aussi intéressant que l'Oelland, dont on parlera peut-être après.
Oui.
Alors, je vous le disais, il y a des gens qui s'opposent à ce projet, mais il y a des gens qui, d'une manière générale, s'opposent à ce qui est en train de se passer en Espagne et sur la politique de rigueur. Et je vais vous parler du cas de 3 télés associatives espagnoles, de 3 médias qui soutiennent activement le mouvement des indignés qui s'est monté depuis des mois. Et alors, bizarrement, ces 3 chaînes de télévision locales, Teleca, Canal 33 et Solidaridad TV, le gouvernement espagnol tente de les faire fermer. Alors, elle n'a pas accès directement à ces télévisions. Par contre, elle essaye d'utiliser une faille juridique. Il faut savoir que les télés locales, suite à un petit bazar dans les décrets non déposés, comme ça arrive souvent après des lois proclamées, les télévisions, elles ne bénéficient plus de concessions administratives. Donc, ça veut dire que normalement, elles n'ont plus le droit d'émettre. Alors c'est évidemment une catastrophe parce qu'elles sont la voix des indignés, elles sont la voix des précaires, des travailleurs, elles sont la voix des gens qui sont en lutte. Alors du coup, comme le gouvernement ne peut pas s'en prendre directement à ces 3 télés, elle s'en est pris aux propriétaires de la Tour de Valence qui, en fait, diffusent permet l'émission. Voilà, exactement. Et elle les menace d'une amende de 30 000 euros par jour si la Tour de Valence continue à héberger les associations. Donc c'est une, on sait que c'est sévère. Une telle amende, bah, ça vous coule n'importe quelle structure associative. Alors, du coup, les trois télés bah, ont décidé de trouver tous les moyens pour continuer à émettre. D'abord, bah, clandestinement, s'il le faut. Donc, elles ont trouvé les moyens tactiques. Et puis, surtout, elles se sont lancées dans une grosse opération de récupération de dons des sympathisants pour essayer bah, de pallier aux amendes qui pourraient les gêner par la suite. Alors voilà, pour l'Espagne, c'est donc un pays où demain, peut-être que vous irez passer vos vacances, mais peut-être que demain, vous irez en Tunisie, ce qui est un pays qui est très fréquenté par les touristes français. Alors certes, on a une révolution qui est finie sur le papier, mais il faut quand même rassurer le touriste. Alors la Tunisie a lancé une grande campagne de publicité pour le tourisme, dont le slogan est « Tous les rêves sont possibles ». Ça sonne un peu comme un slogan de la révolution, hein, du printemps arabe, un slogan de la rue. Ben non, c'est une campagne de l'Office du tourisme. Il faut savoir que toutes les dernières campagnes de l'Office du tourisme en Tunisie ont été caricaturées, ont été détournées par des opposants. En particulier, la dernière campagne qui s'appelait « Tunisie, à vous de voir » et qui, par exemple, faisait « Il paraît qu'en Tunisie, les hôtels sont complets ». Et derrière, on voyait l'image d'un homme à terre tabassé par les forces de l'ordre. Donc, toutes leurs campagnes, évidemment, sont transformées. Mais ça n'empêche pas que la Tunisie a fait un gros, gros lobbying, en particulier en France. On avait le ministre du Tourisme qui est venu début juin en France vanter les bienfaits de la Tunisie et en lui expliquant que tout va bien, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. C'est un peu le même discours qu'en Grèce, où on nous explique que vous inquiétez pas, vous pouvez venir avec vos cartes bancaires, vous pouvez quand même retirer les sous. C'est quand même des choses qui sont expliquées par l'Office de tourisme grec. Et bien en Tunisie, c'est un peu pareil, on vous explique que tout va bien, il n'y a pas de risque de danger, les touristes, vous serez à l'aise, vous pourrez aller sur les plages jusque c'est pas si simple que ça, puisque la Tunisie, elle est quand même toujours un petit peu en attente du droit à la liberté d'expression. Toutes les semaines, on a des nouvelles affaires de gens qui sont condamnés pour leurs propos dans des blogs, pour des propos à la radio, pour leurs émissions à la radio, dans les télévisions privées, qui sont des télévisions commerciales, hein, que nous ne défendons pas particulièrement. Elles ont aussi été touchées par ces phénomènes. Il faut dire que les décrets-lois n'ont toujours pas été appliqués. Donc pour l'instant, il y a beau y avoir eu une idée, un symbole de la démocratie, les médias vont pouvoir exister. Pour l'instant, les lois ne sont toujours pas appliquées, puisque de toute façon, il n'y a pas de décrets qui sont aujourd'hui mis en place. Donc toutes les réformes sont au point mort en Tunisie sur la question du droit à l'expression, de la liberté à l'expression. Il faut dire qu'il y a aussi beaucoup de flou juridique. Et les juges en profitent beaucoup, donc parce qu'a priori, ils ne sont pas trop hein, du côté des blogueurs quand même et des médias, ils sont plutôt du côté des censeurs. Hein. Donc ils se servent de tous les flous juridiques pour faire condamner, hein, et pour aider en tout cas à faire condamner les gens qui sont des opposants, qui osent porter la parole, leur parole et celle des autres, quel que soit le média. Donc sur Internet, c'est aussi très très réduit. Alors là, par exemple, on pourrait vous dire que cette semaine, il y a une cour d'appel qui a confirmé une peine de 7 ans et demi de prison pour un jeune Tunisien. 7 ans et demi de prison pour avoir fait des caricatures du prophète Mahomet sur une page Facebook. C'est un cas de plus, c'est un seul cas que je vais vous citer sur la Tunisie, mais il faut savoir que toutes les semaines, des cas comme ça arrivent. Donc c'est pas quelque chose de juste comme ça, de temps en temps, c'est une réalité sur la Tunisie. Et donc, juste pour vous dire que le slogan le plus drôle que j'ai trouvé quand même sur les pays un petit peu en difficulté avec justement les médias, hein, un pays qui fait beaucoup de censure sur place, c'est le Qatar. Hein. Je ne vais pas vous étonner en vous disant que le Qatar est l'un des pays les plus fermés médiatiquement au monde. Oui, il y a Al Jazeera, vous allez me dire, mais Al Jazeera a une parole à l'extérieur du Qatar déjà. C'est pas forcément une télé qui est destinée aux Qataris, mais c'est vraiment une chaîne qui est à l'international, donc qui a un certain discours, une certaine manière d'être. Et le Qatar, ils ont trouvé un super slogan pour cet été, c'est « Cool your summer », hein, c'est « Éclate-toi cet été » un peu.
Ouais, cool, ça veut aussi dire « frais », tu vois. Donc,
ouais. Mais là, je pense qu'on est vraiment dans le « Alors, parce que, excuse-moi, mais le frais au Qatar, il va falloir le chercher, à part dans les hôtels climatisés. Ouais, donc oui, là, c'est vraiment...
Il n'y a pas des pistes de ski. Il n'y a pas une piste de ski.
Je crois que c'est l'Arabie Saoudite. Hein, mais enfin, le Qatar ne nous étonne plus dans la création. Donc voilà, c'est une très, très belle publicité avec Parasol hein, que je suis en train de montrer à mes petits camarades. Voilà, le Qatar, qui est quand même un des pays les plus fermés, Hein, on parle souvent de pays totalitaires, hein, la Corée du Nord, on en parle souvent dans le Canyon Info du jeudi, mais le Qatar est réellement fermé, il y a une réelle autocensure puisqu'on va très très vite en prison pour des raisons de blasphème, puisqu'il est interdit de parler d'un certain nombre de sujets qui pourraient toucher les chefs en place, la religion, et un des derniers sujets qu'il est interdit de critiquer au Qatar, c'est le travail, hein, et en particulier le travail des migrants. C'est très très difficile d'intervenir sur le sujet. Les migrants, dans beaucoup de pays, c'est des gens qui sont laissés à la traîne et dont on fait comme s'ils n'existaient pas.
Voilà. Donc ça, bon. C'était le sujet vacances. Nous, on a préféré aujourd'hui prendre des vacances à la Guillotière et on va continuer avec Vincent.
Bah, on peut peut-être rester dans la même veine, mais en se rapprochant du continent africain. Parler par exemple du Mali, qui était une destination favorite, avec plusieurs dizaines de milliers de touristes qui, du coup, sont plus du tout dans le Mali. Et vous imaginez un peu les conditions de vie des gens qui avaient bâti pas mal sur l'économie de subsistance, sur ce tourisme. Ben, vous imaginez un petit peu leur désarroi. Alors, on était quand même en train de parler de difficultés à s'exprimer. Je vais vous relater quelque chose qui est lié à la liberté de presse du côté de l'Afrique ou de sous-ensemble de l'Afrique. Ça sort du New York Times et c'est visiblement le comité de protection des journalistes qui est l'équivalent de l'organisation Reporters sans frontières du côté des États-Unis. Eh bien, ce comité sonne l'alarme. Visiblement, les intérêts politiques et économiques liés aux investissements chinois sont en voie d'éradiquer le journalisme indépendant en Afrique. Alors vous allez voir que ce n'est pas partout dans toute l'Afrique. On va même prendre un très beau contre-exemple. Visiblement, quand même, des journalistes africains indépendants qui sont chargés de couvrir le développement du continent sont de plus en plus souvent inquiétés pour avoir dénoncé des détournements de fonds publics, dénoncé un peu la corruption ou diverses activités d'investisseurs étrangers. Tiens, comme c'est bizarre. Et vous vous doutez bien que les libertés individuelles, comme la liberté de presse, ne font pas spécialement partie des priorités dans plusieurs pays. Ça permet tranquillou bilou à certains dirigeants autoritaires de se montrer encore plus agressifs envers les journalistes. Alors, dans les années 90, il y avait Paul Kagame, par exemple, au Rwanda, ou Meles Zenawi en Éthiopie, qui étaient plutôt salués comme des grands réformateurs par les Occidentaux. Ben bon, pif paf pof, en ce moment, ils sont plutôt acclamés pour leur capacité à créer la croissance, mais en maintenant la stabilité du pays, tout simplement en muselant la presse et tout ça d'une main de fer. Et alors, il y a un phénomène assez nouveau qui est du fait de la Chine, qui est, bon, vous le savez, devenu un des premiers partenaires économiques du continent africain, mais qui commence à approfondir ses liens techniques et médiatiques avec les gouvernements africains pour lutter contre des couvertures médiatiques trop critiques. Ah, tiens, comme c'est bizarre. Alors, Pékin a publié un livre blanc, il n'y a pas très longtemps, où elle dit qu'il faut renforcer les médias chinois à l'étranger, déployer 100 000 journalistes dans le monde prioritairement. En Afrique, tiens, ça c'est bizarre aussi. Par exemple, entre 2004 et 2011, il y a plus de 200 officiers de presse gouvernementaux africains qui ont suivi une formation dispensée par des Chinois afin d'apprendre à réaliser une couverture fidèle à la réalité des activités chinoises en Afrique. Voilà. Donc vous pouvez retrouver cet article sur le Courrier International, ça vient du New York Times. Et puis on peut aussi dire que parler d'Afrique, ça n'a pas tellement de sens. C'est un pays avec c'est un continent avec plus de 50-60 pays. Et par exemple, le Cap-Vert, la Namibie, le Mali et le Niger sont devant la France au niveau des pays au monde les plus respectueux de la liberté de la presse. Alors un petit exemple, par exemple, qui nous tient à cœur, notamment dans cette émission Bivouac et dans cette radio, Radio Canu. C'est l'Indépendant, qui est un journal burkinabé dont la devise est la liberté d'informer, le droit de penser. Et par exemple, l'un des derniers articles, c'était « Disparition de 5 milliards 900 millions sur le coût de la licence Telmob, de forts soupçons sur l'ex-premier ministre ». Donc vous voyez quand même que ce journal, l'Indépendant, porte bien son nom. Malheureusement, Norbert Zongo, qui était l'ancien directeur de la publication dans les années 90, lui, il a été assassiné. Alors, il a été assassiné, on ne sait vraiment pas par qui, hein, rien à voir du tout avec le président burkinabé, qui est plutôt du côté des dictateurs africains, Blaise Compaoré, qui est probablement à l'origine de cet assassinat. Voilà, juste pour finir, parce qu'on est toujours donc en direct de la place Mazagran, on peut parler de radio. La radio, eh bien, c'est dès le début des années 60, du moins en Afrique francophone, des radios en langue nationale, nationales, qui se sont développées. Puis il y a eu la mutation avec la FM qui est arrivée, des radios privées. Et puis vous le savez, ce qu'on appelle des radios communautaires. Si vous allez en Afrique, on vous dit, ben voilà, je tiens telle radio communautaire. Eh bien, communautaire, ça veut dire destiné à des communautés, en général rurales. Et ça, c'est vraiment une spécificité avec plusieurs centaines, enfin une centaine au moins de radios au Mali et à Madagascar. Et puis, badaboum, voilà ce qu'on peut lire sur RFI. L'avenir de la radio en Afrique, un peu comme chez nous d'ailleurs, passe par le défi de la numérisation des équipements. Donc là, on est dans le plein gag. Si elle est préconisée par les institutions internationales, elle risque de se heurter aux réticences des opérateurs et à la réalité économique. Sans blague, alors ça serait pas une transition impeccable, ça?
Ben si, parce qu'on est présent Place Tolosan et c'est l'occasion ou jamais de...
Place Mazagran, parce que Tolosan, c'est du vin, je crois.
Place Mazagran, pour parler d'un sujet qui concerne directement Radio Canu et dont on n'aborde pas toujours les choses sur l'antenne, c'est la radio numérique terrestre. Donc les technocrates là-haut appellent ça la RNT et qu'ils essayent d'imposer. Alors c'est un vieux serpent de mer, hein, la radio numérique terrestre, puisque ça fait 20 ans qu'il y a des tentatives de la part notamment, oula, un petit Larsen, de la part de l'État essentiellement, de nous imposer cette radio numérique terrestre. Et là, depuis quelques temps, quelques mois, c'est de retour pour Radio Canu et puis pour d'autres, et c'est lancé par le CSA. Vous savez, le CSA, c'est le truc un peu soviétique qui contrôle les médias audiovisuels français.
Alors, et si le CSA est par là, s'il pouvait lever la main.
Non, je crois qu'ils ne sont pas là. Donc, le CSA essaye de contrôler Radio Canu, mais vous inquiétez pas, on résiste. Et alors, il relance l'appel au numérique. Alors, juste pour rappeler, dans le dernier appel qui commence juste, on nous dit au CSA que cette fois-ci, le numérique s'est lancé. D'ici 2013, 3 villes vont pouvoir émettre en numérique. Et d'ici 2015, toutes les villes doivent être entièrement passées au numérique. La FM disparaîtra d'ici quelques années. On n'a pas de date de l'arrêt de la FM. Donc pendant un certain temps, les deux systèmes vont cohabiter. Réseau numérique terrestre et puis l'analogique terrestre qu'on appelle la bande FM.
Alors, mais ça change quelque chose pour les auditeurs? Oui, ils vont mettre un petit adaptateur?
Je vais vous expliquer, ça change tout pour les auditeurs parce qu'il n'y aura pas d'adaptateur contrairement à la télé numérique, puisqu'il faudra racheter les postes de télé. Alors, je vous rappelle que chez vous...
Postes de radio.
Les postes de radio. Si vous calculez en moyenne combien vous avez de postes de radio, il paraît que c'est 6 par foyer, par appartement. S'il faut racheter 6 postes de radio, ça va faire cher. Alors, c'est pour ça que la phase de transition risque d'être importante. Alors, face à ce développement-là, certains résistent. Alors, Radio Canu fait partie des radios qui sont résistantes parce qu'on aime la bande FM. On est né en 77 en tant que radio pirate. On doit être une des plus vieilles. On est une des plus vieilles radios de France. Et on tient à cette bande FM qu'on a acquis dans la douleur. Il faut se rappeler qu'à l'époque, les gens qui faisaient Radio Canu, nous n'étions bien évidemment presque pas nés. Ils se sont fait arrêter, saisir le matériel. Enfin, c'était un peu difficile. On a à cœur de défendre cette bande FM et les gouvernants, entre autres, ont à cœur de la détruire pour la remplacer par cette fameuse radio numérique. Alors, on nous la vend comme étant quelque chose de positif. Alors, positif parce que le numérique, c'est la modernisation du monde et qu'on ne doit jamais s'opposer à la modernisation du monde. Bizarrement, devant moi et tout à l'heure des émissions, vont passer des vinyles qui sont donc des gens ringards, il faut quand même vous le dire, messieurs. Mais non, il n'y a pas que ça. On nous fait croire que ça sera mieux au niveau qualité. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail de la physique, mais au niveau qualité, ce n'est pas possible d'être mieux que l'analogique, puisque l'analogique, c'est le signal parfait, le son étant analogique, l'enregistrement étant analogique au départ. On ne pourra jamais faire mieux que l'analogique. Certes, on arrive à bluffer l'oreille avec des systèmes numériques très évolués, mais la radio FM numérique sera de basse qualité. Ce sera jamais de qualité CD et encore moins de qualité supérieure au CD, puisqu'il existe des systèmes numériques bien supérieurs au CD. Donc voilà, on nous dit que ça va permettre d'avoir plus de radios. Alors si vous regardez en France, grosso modo, il y a 3-4 villes dans lesquelles toute la bande FM est prise par des radios. Et pour toutes les autres villes de France, les milliers d'autres villes de France qui restent, eh ben, les 3/4 des fréquences sont disponibles parce que personne n'en veut. Donc en fait, c'est un faux problème.
Et alors, en plus, il y a plein de radios qui sont quand même sur l'Internet. Quand même.
Voilà. Alors, on essaye de nous vendre en nous inventant des arguments qui sont bien évidemment rejetés par Radio Canu, par nos amis qui sont dans la lutte. Il faut savoir qu'il n'y a pas que des radios associatives qui s'opposent au développement de la radio numérique terrestre. Il y a les 4 principaux groupes de radios privées. qui aujourd'hui s'oppose à la radio numérique pour des raisons économiques, elle. Il y a Énergie, Next Radio, RTL Europe 1, qui sont les quatre principaux groupes privés français de radio. Eux s'y opposent parce qu'ils ont fait leur calcul. Il va falloir pendant 10 ans émettre en double. Ça va coûter deux fois plus cher et on n'aura pas deux fois plus d'auditeurs. Au pire, au mieux, on aura le même nombre d'auditeurs. Voilà. Et puis alors, pour terminer sur cette escroquerie qu'est la radio numérique, si on regarde l'expérience dans les pays autour, puisque quelques pays ont fait déjà le passage au numérique, alors l'Allemagne vient de commencer à le faire, pour l'instant ça marche pas très bien. Si on regarde un peu plus loin, c'est la Grande-Bretagne qui a été un peu précurseur, qui a lancé le numérique il y a déjà pas mal d'années. Aujourd'hui, ils ont à peu près 30% de l'audience des radios qui est faite sur le numérique, après quasiment 10 ans d'existence. Et dans les calculs, ils ont remarqué à partir de 2008, le nombre de ventes de postes de radio numérique est en baisse. Donc ça veut dire qu'ils n'arrivent pas à dépasser ce taux d'écoute d'à peu près 30% pour la population. Donc même en Angleterre, pays précurseur, ils ont du mal à vendre la radio numérique parce qu'il n'y a pas d'avantage à passer au numérique pour une radio et encore moins pour une radio indépendante telle que Radio Canu. Pour terminer sur ce sujet-là, juste pour dire, Radio Canu est indépendante aujourd'hui. Si on passe au numérique, on sera plus indépendant puisque les systèmes d'émission numérique ne pourront pas se faire par radio, mais il faudra grouper 8 radios en même temps. Donc on sera peut-être obligé de se grouper avec Europe 1 Radio Scoop pour émettre. Vous imaginez la perte d'indépendance. Donc voilà, c'est un système que l'on combat et que nous espérons combattre jusqu'au bout et gagner d'ailleurs, pour conserver cette bande FM acquise dans la douleur, dans la peine, mais dans la joie aussi.
Ce serait bien dommage de ne plus avoir ce ton rebelle que nous utilisons semaine après semaine dans toutes les émissions, qu'elles soient musicales ou dans les émissions d'information. On vous rappelle que Radio Canu, c'est une association, que ce ne sont que des gens qui sont là bénévolement, volontairement. Il n'y a pas de salariés à Radio Canu, il n'y a pas de publicité non plus, donc nous ne sommes sans obligation, sans lien envers des partenaires financiers. Nous n'avons non plus de contrôle sur aucun individu puisque nous ne salarions personne. Hein, nous ne sommes le chef de personne et c'est extrêmement important pour nous. On vous rappelle qu'il y a des émissions qui sont toute la semaine à tous les horaires et qu'à côté, il y a une bande musicale qui anime les trous sans émission, sans être humain. Une bande musicale qui est toute préparée spécifiquement pour vous puisqu'elle est animée par un petit groupe renouvelé souvent, hein. Vincent pourrait beaucoup nous en parler, mais qui permet de faire vivre aussi la radio parce qu'on vous propose une musique qu'on n'entend pas forcément ailleurs. Évidemment, il y a notre propos libre hein, qu'on emploie beaucoup dans tous les canuts info toute la semaine, mais il y a aussi cette musique qu'on vous propose et qu'on n'entend pas ailleurs, et je pense que c'est là où les radios associatives comme Radio Canu ont évidemment toute leur place.
Voilà, au niveau de l'illustration musicale, ça va probablement commencer dans 5 à 10 minutes. Toute une soirée plutôt musicale qui devrait faire comprendre la saveur musicale de cet instrument qui est Radio Canu.
Quel sujet abordons-nous pour terminer? Il nous reste effectivement 6-7 minutes avec deux petites minutes d'agenda à la fin parce qu'on va vous parler. Il y a des choses qui se passent en même temps ici, en même temps qu'ici, ailleurs, pas très loin de dans la banlieue lyonnaise.
Moi, j'avais deux lectures que j'aurais bien recommandées aux auditeurs. La première, ça s'appelle « L'Atlas des Tziganes » de Samuel Delépine aux éditions Autrement. C'est par exemple en vente à la Griffe. Et c'est un petit peu pour mettre à plat tout ce que vous savez ou ne savez pas sur les populations tziganes, les origines indiennes d'une partie de ces populations, leur diversité. Alors il y a des Roms, mais c'est plutôt à l'est, il y a les Gitans du sud, il y a les Sinti Manouches dans le centre de l'Europe, aussi des rappels historiques sur leur extermination pendant la guerre, leur présence aussi dans la ville. Vous allez voir qu'ils ne sont pas spécialement favorisés, vous en doutez bien. Donc l'Atlas des Tziganes, et puis une autre lecture certes un petit peu dépressive, mais qui permet d'avoir les yeux grands ouverts, comme on dit. Jetez-vous sur le dernier numéro de Courrier International qui parle, probablement du Qatar, puisque visiblement vous pensiez que les esclaves ça n'existe plus. Eh bien, il y a des centaines de millions de domestiques, principalement donc du côté du Moyen-Orient Moyen-Orient, avec donc 5 à 10 articles qui sont de toute la, du monde entier qui précisent ça.
Notamment sur le Liban, où le cas des esclaves modernes, que sont les domestiques, est décrit dans des articles, et c'est un cas assez difficile pour les gens là-bas. Il y a toutes les maltraitances imaginables, du viol au tabassage, et puis la privation de nourriture.
Et des esclaves aussi dans les chalutiers thaïlandais, dans le nord-est du Brésil, qui sont transportés en autocar. Bref, bonne lecture.
Enfin, juste pour revenir sur le Liban, effectivement, il y a un esclavage, mais ce n'est pas forcément aussi violent qu'on veut le croire. C'est simplement des gens des femmes, qui sont philippines pour beaucoup, arrivent au Liban, on leur enlève leur passeport. Jusque-là, c'est tout extrêmement violent, effectivement. Ensuite, ce n'est pas forcément le travail qui est violent, parce que, par exemple, elles vont devoir s'occuper des enfants. Sauf que ce qui est violent, c'est évidemment, c'est que le nombre d'heures effectuées dans une semaine est absolument hallucinant. Effectivement, elles n'ont pas leur liberté de mouvement, puisqu'elles n'ont plus leur passeport. Mais c'est aussi, comme Laurent et moi avons pu le voir sur place, des domestiques, des esclaves qui vont accompagner les enfants au McDonald's, qui restent à côté mais qui elles-mêmes ne mangent pas. Elles doivent regarder les enfants en train de se goinfrer du fameux hamburger capitaliste universel dont tout le monde se nourrit partout dans le monde. Et c'est ça qui est surtout le plus difficile, c'est-à-dire c'est pas tant les violences physiques qui existent et qui sont bien réelles et qu'on ne va certainement pas nier ici, mais c'est simplement la vie au quotidien de ces femmes qui se retrouvent dans un pays qui n'est pas leur, avec une langue qui n'est pas la leur, une culture qui n'est pas la leur, et simplement être obligée de faire quelque chose et être obligée de rester à un endroit précis sans avoir le droit de rentrer chez elles, tout simplement.
Voilà, une dernière lecture recommandée, donc, toujours dans ce mélange entre Bivouac et les Canuts Info. Sur le site de l'association Migre Europe, un poignant document qui date de quelques mois, qui s'appelle « Parole d'expulsés », que je vous engage forcément à lire sur la politique migratoire de l'Union européenne, très reluisante.
Ouais. Et juste pour finir, si vous voulez avoir des informations, vous pouvez écouter Radio Bubble. Alors ouais, ok, c'est pas dans votre langue, mais c'est aussi une radio associative. Vous pouvez écouter, donc je vous le disais, les trois chaînes espagnoles. Vous pouvez les regarder, voilà, vous pouvez les retrouver sur Internet. Il y a des tas de chaînes, des tas de radios, des tas de télé, des tas de médias qui existent au niveau alternatif, et avec Internet on a accès à tous ces médias. Il suffit juste de se donner un petit peu la peine pour avoir un autre monde que celui qu'on nous impose tous les jours dans les médias officiels et dans les médias capitalistes.
Alors on va faire un petit agenda. Je voulais saluer le sérigrapheur de Lyon qui s'appelle Papy, qui est devant moi, qui fait une expo sur la sérigraphie espagnole dans un bar Corgambetta qui s'appelle L'autre côté du pont, voilà, qui est le sérigraphe en chef des de la Croix-Rousse. Et autre partie de l'agenda qui est quand même un gros truc, c'est ça a commencé il y a environ 2 heures, ça se passe à Décines, dans ce lieu d'opposition à cette construction ô combien aberrante qui est le grand stade qu'on appelle l'OL Land, puisque c'est pas qu'un stade, il y a plein d'autres choses. Pour que le capitalisme fonctionne, il a besoin d'autres choses que du sport, le sport c'est l'attraction. Donc il y a une mobilisation qui a commencé tout à l'heure, il y avait une centaine de personnes, ils sont devant la mairie, il y a des prises de parole pour s'opposer à la construction de cette aberration qu'est le Grand Stade. Et ce soir, il y a des petits concerts, non pas dans la ville de Décines, mais là où il y a le village des sacrifices et filles de but, puisque c'est leur dénomination. Et puis demain, toute la journée, il y a une mobilisation là-bas. Sur leur but, avec un repas partagé à midi, des concerts, des activités la journée, le théâtre de l'opprimé qui va faire des choses. Voilà, ça se passe à Décines, puisque la résistance, elle est ici, dans le 7e, elle est un peu partout dans Lyon, et elle est aussi et surtout à Décines en ce moment. Donc voilà. Est-ce que mes camarades ont quelque chose d'autre à dire ? On va vous laisser cette soirée avec de la musique, puisque là c'était un peu la dernière grosse prise de parole de Radio Canu et des animateurs et animatrices de Radio Canu.
En direct.
Ensuite ça va être toujours en direct, mais avec plus de musique, parce que à partir d'un moment il faut aussi qu'on fasse la fête. Faisons la fête tous ensemble, que les radios associatives, que la résistance continue. Merci à Vincent de Bivouac d'avoir partagé ce Canu Info, merci Delphine. On se retrouve, nous, dans nos différentes émissions tout au long de la semaine.